L'Église, hein, c'est ça, c'est bien inscrit dans le droit canonique, hein, laisse toujours la possibilité aux fidèles d'exprimer leur, ce qu'ils appellent leurs besoins spirituels, de faire des remarques sur tel ou tel point, du moment qu'on ne remet pas en cause le fondement de la doctrine de l'Église. Donc ça, finalement, c'est une liberté qui est reconnue, d'ailleurs depuis Vatican II, et qui est reconnue de la même façon le lefévriste, de critiquer, de remettre en cause, non pas le fond du concile, non pas la doctrine du concile, ça ce n'est pas possible, mais l'interprétation ou la mise en œuvre de certaines dispositions du concile dans la pastorale. Mais il semble bien clair dans le document qui leur a été présenté qu'on ne fait pas de distinction, et ça Mgr Follet l'a dit, dans le concile entre des éléments qui seraient doctrinaux et qu'on ne remettrait pas en cause, et des éléments du concile qui seraient considérés comme pastoraux et qui pourraient être revus. Il semble qu'on leur demande d'accepter l'ensemble du concile, mais tout en laissant ouvert, effectivement, la discussion à la mise en œuvre, finalement, du concile, comme Benoît XVI l'avait fait en 2005, d'ailleurs, dans son discours à la Curie, où il privilégiait une herméneutique de la réforme vis-à-vis d'une herméneutique de la rupture qu'il critiquait.
Est-ce que ça veut dire que c'est une remise en question du Concile Vatican II ou qu'il n'y a aucune remise en question du Concile Vatican II?
A priori, il n'y a pas de remise en question du Concile Vatican II et il semble bien clair qu'on va demander aux lefévristes d'accepter la question de la liberté religieuse, d'accepter la question de la collégialité épiscopale, d'accepter aussi la validité de la célébration des sacrements selon le missel de Paul VI. Ça-dessus, on ne voit pas Benoît XVI transiger sur ces questions. Ça ferait laisser, pour le coup, un relativisme et un subjectivisme dans l'Église qui n'est pas possible.
Vous voyez une avancée entre les deux parties ou finalement on en est toujours au même stade?
Comme les lefévristes eux-mêmes le rappelaient au début des discussions, on est bien dans le cadre de discussions doctrinales et pas de négociations. Que ce soit bien clair du côté de Rome et des intégristes eux-mêmes, ils le disent, on ne négocie pas la foi. Par contre, je pense qu'il y a un changement d'attitude. C'est-à-dire que les intégristes ont une expression qu'ils reprennent souvent, une image qu'ils reprennent souvent, qui est de dire, bon, il y a des choses bonnes dans le concile, il y a des choses mauvaises dans le concile, mais c'est comme une soupe dans laquelle il y aurait un petit peu de poison. Finalement, on ne peut pas sortir le poison de la soupe, donc il faudrait tout jeter. Moi, j'aime bien cette image, ça permet de reprendre finalement toute l'attitude de Benoît XVI vis-à-vis des lefévristes, c'est de dire on est face à des enfants turbulents qui refusent de manger la soupe et qui accusent papa et maman d'avoir empoisonné la soupe. Or, Benoît XVI et les papes, Paul VI et Jean-Paul II avant lui, ont eu plusieurs attitudes. Ils ont essayé d'expliquer, ils ont puni aussi, ils ont envoyé les enfants turbulents dans leur chambre. Et puis aujourd'hui, Benoît XVI a une attitude beaucoup plus finalement paternelle, d'explication, de persuasion. Et il a ramené finalement les enfants turbulents à table en leur demandant, ben, ils vont manger la soupe, ils vont finir la soupe, et puis en même temps, ils vont, à côté de ça, ces enfants qui protestaient, qui donnaient des coups de pied, qui criaient, qui se roulaient par terre, eh ben non, on va leur dire, vous protestez de votre amour pour vos parents, vous protestez de votre amour pour le pape et l'Église, eh bien, montrez cet amour pour le pape et l'Église en acceptant cette doctrine. Et puis, finalement, vous choisissez. Ils sont mis au pied du mur, d'une certaine façon, sommés de choisir entre leur amour pour le pape et l'Église et leur détestation du concile. Et là, c'est très difficile de savoir ce qu'ils vont choisir, en fait.
Donc, finalement, vous ne trouvez pas que le Vatican les a plus ménagés que ça?
Je pense que le Vatican est allé jusqu'au bout de ce qu'il pouvait aller dans une attitude paternelle. Benoît XVI peut difficilement aller plus loin. Benoît XVI le connaît très bien les lefévristes. Il a déjà négocié dès 88 et même avant avec Mgr Lefebvre, dès 82 quand il était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Donc il sait très bien à qui il a affaire. Et je pense qu'il sait très bien qu'il y a des gens de toute façon au sein de la fraternité Saint-Pie-X qui n'accepteront jamais un accord, pour qui la détestation du concile est finalement plus fort que l'amour qu'il professe pourtant pour le pape et l'Église. Mais il y a aussi des gens, et ça il le sait très bien, qui sont finalement un peu égarés aussi par les responsables de la fraternité, mais qui ont vraiment au cœur l'amour de l'Église et qui sont sans doute prêts à faire ce pas. Et il leur tend la main, il leur ouvre la porte et il est allé jusqu'au bout de ce qu'il pouvait faire.
Justement, est-ce qu'on peut s'attendre à une scission à l'intérieur même de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X?
Moi, je pense que c'est possible, effectivement. Je pense que s'il y a certainement des évêques au sein de la fraternité qui sont prêts à suivre, je pense aussi qu'il y a certainement un ou plusieurs évêques qui refuseront tout accord, et que donc, dans ce cas-là, ben, il y a deux possibilités. Soit la fraternité décide de préserver son unité, et que même les évêques qui étaient prêts à un accord disent, ben, puisque tout le monde n'est pas d'accord, on n'y va pas. Ou alors qu'il y a certains évêques qui disent ben, notre amour de l'Église qu'on professe, il faut qu'on aille jusqu'au bout et donc on se rallie à Rome. Et dans ce cas-là, effectivement, il y aura une scission. Et c'est l'édifice qu'a construit patiemment Benoît XVI depuis le motu proprio Summorum Pontificum risque de s'écrouler parce que tout ça, tous ces efforts finalement ont été faits pour rétablir l'unité de l'Église. Or, on va se retrouver avec une situation où effectivement un certain nombre de fidèles vont, et de prêtres et d'évêques vont rallier Rome, mais aussi un certain nombre d'évêques et de prêtres vont rester en marge de l'Église, avec ce risque eh bien, d'avoir un évêque qui réordonne de nouveaux prêtres, voire un nouvel évêque pour lui succéder, devant le schisme perdurer.
Le père Federico Lombardi a parlé de la création possible d'une prélature personnelle pour les lefévristes. Quelle serait-elle, à votre avis? De quel type? Et pourquoi pas un ordinariat?
Alors de quel type, c'est difficile à dire, puisqu'il n'y a qu'un type de prélature personnelle jusqu'ici dans l'Église catholique, qui est l'Opus Dei. C'est quelque chose qui leur permettrait d'avoir un statut pour les prêtres et les évêques, sachant que, du coup, les fidèles resteraient bien des fidèles de chacun des diocèses, ce qui permet effectivement de réintégrer ces prêtres et ces évêques dans l'Église, sans faire finalement deux églises parallèles. Le risque pour eux est effectivement qu'une prélature personnelle, en théorie, d'après le code de droit canonique, doit demander à l'évêque de chaque diocèse sa permission pour agir dans son diocèse. Donc là, on entend déjà les voix d'un certain nombre de lefévristes qui disent « mais c'est scandaleux, les évêques ne voudront jamais qu'on agisse dans leur diocèse, donc on va nous mettre des bâtons dans les roues ». Effectivement, l'ordinariat leur donnait peut-être moins d'autonomie vis-à-vis de Rome, mais plus d'autonomie vis-à-vis des évêques. Donc je ne sais pas ce qui a présidé au choix de la prélature plutôt qu'à l'ordinariat. Ça, il faudra demander plutôt au cardinal Levada, c'est lui qui sait pourquoi on a fait ce choix plutôt qu'un autre. Mais c'est vrai que la prélature leur donne une certaine autonomie dans l'Église, une action internationale, tout avec en ayant le risque, effectivement, de pouvoir être freinés dans leur action vis-à-vis des fidèles par les évêques locaux.